France Info.
Bonsoir. L'incendie de Notre-Dame ne modifie en rien l'état de l'opinion principale. Enseignement de notre sondage Odoxa, Dentsu Consulting pour France Info, Le Figaro, que nous allons détailler à la une des informés. Alors que l'hommage à la cathédrale s'est poursuivi aujourd'hui et que sa reconstruction fait toujours débat, nous évoquerons également le conflit qui oppose le politologue Thomas Guénolé à la France insoumise. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Véronique Reilsoult, directrice générale de Dentsu Consulting, partenaire de notre enquête. Avec nous également, bonsoir Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Et à vos côtés, bonsoir Arnaud Gonzague,
bonsoir.
Co-chef du service société à l'Obs. Avec nous également, bonsoir et bienvenue Arnaud Benedetti,
bonsoir.
Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne. Et vous êtes de plus en plus nombreux à suivre chaque soir les informés de France Info. Vous êtes notamment 330 000 à nous écouter à la radio selon Médiamétrie. Merci de votre fidélité. Vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 21h. C'est la tradition à la radio et en même temps à la télé sur le canal 27 de la TNT. L'incendie de Notre-Dame de Paris ne modifie donc en rien l'état de l'opinion publique. Les lignes n'ont pas bougé, comme le révèle cette enquête Odoxa Dentsu Consulting pour France Info, Le Figaro, réalisée hier et aujourd'hui auprès d'un millier de Français par Internet. 6 Français sur 10 pensent qu'Emmanuel Macron a eu raison de différer ses annonces. Confirmation avec Gaël Sliman, cofondateur et président d'Odoxa.
Large approbation des Français, 61% des Français estiment que Emmanuel Macron a eu raison de différer, de retarder ses annonces. Alors sans surprise, Frédéric, je ne suis pas sûr qu'on puisse le dire, parce que certaines catégories de la population qui sont particulièrement impatientes d'entendre le président sur ces sujets, auraient bien voulu l'entendre tout de suite. C'est le cas notamment des catégories populaires et notamment des ouvriers et de la France rurale et périurbaine, qui a vraiment hâte d'entendre toutes ces annonces. Donc globalement, il a eu raison de différer et d'attendre, mais attention, l'impatience est là.
Véronique Reilsoult, 6 Français sur 10, il y a quand même du monde pour dire que le président aurait pu faire ses annonces tout de suite. 4 sur 10.
Oui, 4 sur 10, mais on va dire que globalement, si on y ajoute l'analyse sur les réseaux sociaux, on voit bien que fondamentalement, les Français trouvaient que prendre la parole ce soir-là n'était pas forcément une bonne idée, donc ils sont plutôt satisfaits de la décision. Après, le discours en plus qu'il a fait ce soir-là était plutôt bien accueilli sur place devant Notre-Dame. Donc globalement, cette séquence-là, elle était plutôt réussie.
Jeannick Halimi, vous diriez la même chose. Au fond, la séquence est plutôt réussie pour le chef de l'État.
Oui.
Ce soir-là.
Pendant cette séquence-là, avec tout ce qu'il y a eu, son allocution, la rencontre qu'il y a eu hier, je crois. Autour la reconstruction, et puis cet après-midi avec la rencontre et l'hommage rendu aux pompiers, c'est bon. D'ailleurs, jusqu'à présent, toutes les oppositions, avec aujourd'hui peut-être quelques coups de canif, avaient respecté ce temps de latence. Maintenant, il est temps pour le président de la République de ne pas surexploiter l'instant.
Vous voulez dire de ne pas étirer la séquence?
De ne pas, pour le coup, récupérer. En tout cas, ça pourrait être interprété comme ça, l'événement Notre-Dame. En plus, ce qui va se passer désormais ne va plus être du ressort de la présidence de la République. Les modalités de reconstruction,
Les travaux,
etc.
Les choix,
vont être lancés. Il est temps maintenant de mettre fin à cette parenthèse dramatique, mais parenthèse tout de même, et de rebondir.
Arnaud Gonzague, est-ce qu'il y a eu une surexploitation de la séquence?
Je pense pas, parce que je pense que effectivement, ce sont des catastrophes qui sont épouvantables, qui n'arrive pas tous les jours, quand même. On a tous été très stupéfaits par ce qui se passait. Donc je pense qu'il y a eu un moment régalien, effectivement, on pourrait dire, dont a profité le président. Je pense qu'il a bien fait, effectivement, de prendre son temps pour ces choses-là. Après, Jeannick a raison, c'est de la séduction aussi, tout ça. Et la séduction, quand ça se voit trop et que ça dure trop longtemps, c'est plus de la séduction, ça fonctionne plus.
Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, mais si ça dure, ça pourrait être préjudiciable pour lui. Mais
c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de chance là-dessus, parce qu'il était sur le point, effectivement, d'annoncer tout un tas de choses. À une heure des annonces, il fait marche arrière. En même temps, les mesures sortent, fuite. Donc après, il est coincé, il est obligé de les donner, mais il est obligé de les changer. Il faut qu'il, soit il a l'air cynique, soit il est plus très séduisant. C'est compliqué.
Arnaud Benedetti, vous qui êtes un spécialiste de la communication présidentielle, que dites-vous ce soir? Vous êtes d'accord avec tout le monde est d'accord, apparemment.
Écoutez, je crois qu'il a plutôt bien géré l'événement. C'est-à-dire que, de toute façon, il ne pouvait pas faire autrement compte tenu de l'émotion qui était suscitée par l'incendie de Notre-Dame. Et puis, c'est un moment, de toute façon, qui, inévitablement, est fédérateur. Donc, il est à peu près légitime qu'il essaye, malgré tout, d'être lui-même au fait de ce moment fédérateur. Et donc, il est le président de la République, il rassemble. C'est très bien. Mais il faut qu'il fasse très attention. En effet, je pense que la séquence du lundi était plutôt réussi. La séquence du mardi, bis repetita, c'est-à-dire la petite vignette de 6 minutes, était peut-être d'un peu de trop.
Véronique Reltsout.
Moi, c'est quand on regarde effectivement le lundi soir, la séquence, elle est juste. Après, il y a forcément toujours des gens qui critiquent un peu, mais globalement, c'était juste. Le mardi, c'est pas du tout la même histoire. C'est plus controversé. Les réactions sont plus controversées. Les gens moins compris.
C'est ce que vous sondez sur les réseaux
sociaux. C'est ce qu'on sondait. En fait, d'abord, il a fait un discours énormément sur le fait qu'il y a un destin au lieu de faire un discours sur la vulnérabilité que les uns et les autres attendaient. Et puis, beaucoup y ont vu des analogies, une forme de leçon, et ça s'est pas très bien passé, d'autant qu'ils ne comprenaient pas forcément quel était l'intérêt par rapport à la séquence de la veille qui était intéressante. Oui. Et puis, l'autre point, c'est que petit à petit, on voit, ils demandent énormément le fameux discours. Maintenant, ils disent, OK, il fallait pas le faire lundi, mais maintenant, on l'attend, on a besoin que ce soit lui qui prenne les mesures, et donc monte chaque jour un peu plus une attente.
Avec un télescopage, il faut-il le rappeler, on va en parler dans un instant d'ailleurs, avec les fuites qui sont sorties, mises sur la table, Jeannine Calimi, ça ne fait qu'augmenter la pression sur les épaules du chef de l'État.
Alors, ça augmente la pression, encore une fois, oui et non, parce qu'il est hors de question pour lui de parler pendant, on va dire, la Semaine Sainte. Hein. Maintenant, la question se pose de savoir s'il va parler mardi ou mercredi. Donc, la pression en termes de temps, elle est relative. En revanche, le fait qu'il y ait eu des fuites qui n'ont pas du tout été, entre guillemets, parce que ça a été dit, téléguidées par l'Élysée.
Ce sont de vraies fuites.
Oui, alors là, c'est là où la pression peut-être est réelle, parce que il teste un peu les mesures qu'ont fuitées, et il est peut-être contraint aujourd'hui à ajouter, voire à infléchir certaines des mesures qu'il a annoncées. Et c'est là où la pression est peut-être la plus forte, la plus insidieuse peut-être.
20h10 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules de Kiss.
Le contre-feu de Thomas Guénolet ce soir sur France Info. Le politologue, une des figures de la France insoumise, annonce qu'il va porter plainte contre le parti de Jean-Luc Mélenchon. Il va aussi poursuivre la militante qu'il accuse d'harcèlement sexuel pour dénonciation calomnieuse. Il dénonce des pratiques staliniennes pour l'évincer du parti. 3 enfants blessés, dont 2 en urgence absolue. Bilan après la chute d'un arbre dans la cour d'une école maternelle de Bessins, près de Montauban. Les gendarmes et les pompiers les ont désincarcérés. Ils sont soignés à l'hôpital Purpan de Toulouse. La direction de l'APHP multiplie par 10 la prime de dangerosité de ses personnels aux urgences. Martin Hirsch, le directeur de l'assistance publique hôpitaux de Paris, en a fait l'annonce ce soir sur France Info. Il débloque aussi 61 postes supplémentaires, alors que tous les personnels sont appelés à la grève générale de 24 heures à partir de ce soir. Aux États-Unis, on connaît dans le détail le rapport Mueller sur l'enquête russe. Le procureur spécial estime qu'il n'est pas en mesure d'exonérer Donald Trump des soupçons d'entrave à la justice. Mais sur le fond de l'affaire, le président américain ressort blanchi. Aucune entente constatée entre son équipe de campagne et Moscou. Et puis Pierre Hugerbert, mort la poussière sur la terre battue de Monte Carlo. Élimination en 8e de finale du Masters de tennis. Défaite 6-4, 6-2 contre le Croate Borna Koric. A noter aussi l'élimination du numéro 3 mondial Alexander Zverev contre l'Espagnol Fabio Fognini.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Autre enseignement de notre enquête Odoxa Dentsu Consulting pour France Info Le Figaro. 54% des Français demandent aux Gilets jaunes de suspendre leur décision de manifester ce samedi. Proportion d'ailleurs qui n'a pas évolué d'un iota après l'incendie de Notre-Dame de Paris. En ligne avec nous, bonsoir Ingrid Levavasseur.
Bonsoir.
Vous êtes l'une des figures emblématiques des Gilets jaunes à l'origine d'une liste, faut-il le rappeler, qui n'a pas vu le jour aux européennes et désormais candidate engagée pour les municipales. Première question avec vous, le chef de l'État a-t-il eu raison de différer ses annonces?
Je pense que le soir même aurait été malvenu effectivement qu'il fasse ses annonces étant donné les événements. Maintenant, de là à ce qu'il fasse traîner les choses et qu'il attende encore davantage, je pense que c'est un risque qu'il prend.
54% des Français qui demandent aux Gilets jaunes de ne pas manifester. Il faut marquer une trêve après l'incendie de Notre-Dame.
Je ne sais pas s'il faut marquer une trêve après l'incendie de Notre-Dame. Je pense surtout que le président de la République devrait lancer ses réformes pour essayer d'apaiser un peu les conflits et essayer de résoudre un petit peu les problèmes avant ce week-end.
Ingrid Levavasseur, vous vous êtes indignée de l'afflux des dons des grands groupes privés en faveur de la reconstruction de Notre-Dame. Pourquoi hein?
C'est pas tant le fait des dons en faveur de la reconstruction, c'est plus le fait que ça prend une proportion tellement importante alors que cette solidarité pourrait aussi avoir lieu avec ceux qui sont les plus précaires et pourrait aussi y avoir un élan de générosité et dire on trouve une solution tous ensemble puisqu'on peut être solidaire pour le monument, on peut être solidaire entre les humains. Et moi c'est plus ce qui me gêne et c'est aussi la façon du gouvernement de surfer sur la vague, surfer sur cette souffrance instaurée ces derniers jours. Moi, c'est ce qui me dérange le plus.
Vous ne craignez pas de me jeter un petit peu d'huile sur le feu en déclarant ceci? Après tout, il y a une émotion nationale autour de Notre-Dame. Hein.
Ah mais l'émotion que j'entends, j'ai moi-même été émue, j'étais le soir de l'incendie sur les lieux pour vraiment être là et je me suis même dit que s'il y avait une cagnotte, je participerais parce que ça me touche énormément. Ouais. Je pense que maintenant, il faut aussi entendre que sur le terrain, il y a des personnes qui souffrent et qui sont dans la rue depuis 5 mois et je pense qu'il faut agir, c'est pas jeter de l'huile sur le feu que de dire écoutez, maintenant on revient à la réalité, il faut faire quelque chose, il faut agir parce qu'ils savent très bien que le 20, c'était une journée de grosses manifestations qui était prévue. Alors pourquoi laisser les choses traîner alors qu'il pourrait prendre la parole?
Vous pensez qu'il y avait une arrière-pensée de la part du chef de l'État à ce sujet?
Comment? J'ai pas entendu.
Vous pensez qu'il y a une arrière-pensée du chef de l'État à ce sujet? Une sorte de tactique?
Eh ben écoutez, je sais pas quelle tactique en tout cas, mais je pense que c'est maladroit.
Dernière chose, avant de nous séparer, Ingrid Levavasseur, 23e journée donc, est-ce que vous allez vous revêtir de nouveau? Je rappelle que vous êtes en campagne hein, déjà, vous l'avez dit, vous l'avez répété, pour les municipales de l'an prochain, est-ce que vous allez reprendre votre gilet jaune?
En campagne, c'est un grand mot, on est encore loin quand même des municipales, mais pour je sais pas encore, mais en tout cas cette colère et ce mépris, hein, parce que c'est de nouveau un mépris, me gêne énormément et me donne en effet des fois l'envie de me remobiliser.
Allez, merci à vous, Ingrid Levavasseur, en direct pour les informés de France Info. Yannick Halimi, apparemment certains des gilets jaunes pensent qu'il y a une forme de tactique de la part du chef de l'État pour essayer d'enjamber cette 23e journée.
Moi, je ne crois pas. De toute façon, si tactique il y a, alors pour le coup, là, c'est le seul point sur lequel je puisse être d'accord avec les propos présents hein, d'Ingrid Levavasseur, c'est qu'elle est très maladroite, puisqu'on voit bien que ça risque d'attiser, alors pour ne pas utiliser abondamment cette comparaison, cette métaphore de feu. Donc, de toute façon, ça, dans tous les cas, de toute façon, je pense, et c'est là où je m'écarte d'Ingrid Levavasseur, c'est que Emmanuel Macron ait fait des annonces aujourd'hui ou en ferait demain avant samedi, ou qu'il n'en fasse pas, cette mobilisation avoir lieu, de toute façon. Ce qui m'étonne un peu, c'est que cette propos, ces colères, ce mécontentement, cette critique assez vive tout de même hein, du gouvernement, et à la limite, je dirais même de l'ensemble des forces politiques, même si bien sûr c'est plutôt Emmanuel Macron que cible Ingrid Levavasseur, viennent d'Ingrid Levavasseur, qui a été justement tout de même l'incarnation de cette partie du mouvement des Gilets jaunes, qui visait plutôt la réforme, le compromis, qui cherchait un débouché politique avec notamment de sa part une liste hein, qu'elle voulait faire aux européennes. Oui. Donc elle cherchait une sorte de canal et d'intermédiation politique, qu'elle-même a été la cible, une cible extrêmement visée de la part de toute une partie de Gilets jaunes dont la vie, je crois, je me souviens d'Ingrid Levavasseur avait été menacée. Donc je trouve que maintenant le débat n'est plus avant, après samedi. Maintenant, il faut voir les mesures véritablement et le sens surtout que Emmanuel Macron va donner aux mesures qu'il va annoncer, encore une fois, probablement mardi ou mercredi. C'est une question de jour et une question d'heure.
On va venir aux mesures dans un instant, puisque notre enquête au Doxa Dentsu Consulting a détaillé les shadow annonces de mardi. Juste encore un mot sur l'argent qui a été proposé, les promesses de dons des grandes sociétés, des grands groupes privés. Je vous propose d'écouter ce qu'en a dit Jean-Michel Blanquer. Il dit, lui, fausse polémique, le ministre de l'Éducation, chez nos amis de RTL ce matin.
Je crois que c'est une fausse polémique. On peut toujours faire des comparaisons de tous ordres, mais de toutes les façons, cet argent n'est pas comparable à tout ce qu'on dépense en matière sociale de façon générale, donc qui se traduit en centaines de milliards d'euros. Donc je pense que c'est une fausse polémique, alors même qu'on a là un sujet d'unité nationale et au contraire qui montre la générosité, l'élan de notre pays. Il faut toujours des voix pour aller brouiller le message. Je crois que d'ailleurs l'élan pour cette générosité-là n'est pas contradictoire avec l'élan pour d'autres générosités. Il faut que ce soit l'occasion d'avoir un levier de générosité pour l'ensemble des causes, et en effet notamment celle qui consiste à lutter contre la pauvreté. Ça va bien avec l'histoire de Notre-Dame d'ailleurs.
Arnaud Gonzague, vous comprenez que le quasi milliard d'euros de promesses de dons fasse débat aujourd'hui?
Bah bien sûr, on peut pas ne pas le comprendre. Ça fait 5 mois qu'une partie de la France appelle à plus de solidarité, appelle à plus de partage. Il faut que ceux qui sont en mesure de payer l'ISF le payent à nouveau. Effectivement, ça n'a rien à voir avec l'émotion qui a été provoquée. Je crois tout le monde sait que ce sont des intentions très louables de vouloir comme ça restaurer la cathédrale, évidemment, mais quand coup sur coup en 1 ou 2 jours 3 milliardaires déversent 1 milliard comme ça, qui sortent de leur poche comme si ça coûtait pas grand-chose.
Pour les grandes familles, c'est un demi-milliard, mais bon, oui. On va friser le milliard.
Effectivement, il y a un symbole qui est terrible, quoi. Et ça a circulé sur les réseaux sociaux. On a dit Victor Hugo pourrait revenir parce que Notre-Dame de Paris, on pense à elle, mais on pense pas aux misérables.
Arnaud Benedetti, il y a d'un côté évidemment les patrimoines qu'il faut sauvegarder, Notre-Dame de Paris éminemment, et puis de l'autre il y a l'attente des Français, l'attente des mesures et des gestes.
Oui, alors c'est deux choses différentes.
Les deux ne se rencontrent pas.
Juste pour revenir sur le sujet des dons, je crois que n'aurait-on dit si aussi il n'était pas intervenu. Mais la vérité, c'est que ce type de méthodes sont des méthodes communicantes très très bien connues. Hein. Les Rockefeller, quand ils créent une fondation au début du XXe siècle, il faut se souvenir qu'ils le font pour transformer leur image. Donc ce n'est pas une nouveauté, c'est un principe de communication qui est récurrent depuis plus d'un siècle. Sur les attentes aujourd'hui des Français, on voit bien que déjà les attentes des Français avec les fuites qui sont déjà sorties dans un certain nombre de colonnes de vos confrères, elles commencent d'une certaine façon à marquer les axes principaux qui sont ceux du gouvernement pour répondre à la crise des gilets jaunes. Mais est-ce que ça sera suffisant? C'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, manifestement, il y a un certain nombre de demandes qui ont émané à la fois des gilets jaunes et aussi de l'opinion publique qui vraisemblablement ne se retrouve pas, en tout cas, dans l'ébauche d'annonces que l'on a vu ces derniers jours.
Et dans un instant avec vous, Véronique Reilsoult, nous allons égrener ces mesures, passer au crible de l'enquête Odoxa Dentsu Consulting. Mais pour l'heure, il est 20h20 sur France Info, rappel de l'info avec Jules De Kiss.
L'ensemble des syndicats de police appellent à des rassemblements demain matin devant les commissariats. Ils demandent aussi à être reçus en urgence par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Ils dénoncent les suicides, très nombreux depuis le début de l'année, avec encore de nouveaux cas cette semaine. Un peu plus d'un Français sur deux souhaite que les Gilets jaunes arrêtent leur mouvement, ne manifestent pas samedi prochain. C'est ce qui ressort du sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Une proportion stable par rapport à février. 55% des sondés souhaitaient alors que les Gilets jaunes arrêtent ce mouvement. Accusé de soutenir le général Haftar, Paris réaffirme son soutien à Tripoli ce soir au gouvernement du national. Le ministre de l'Intérieur libyen estime que la France joue un double jeu dans le conflit en cours. Elle soutiendrait le militaire qui mène une offensive pour gagner le pouvoir. Journée d'hommage aux pompiers qui ont sauvé Notre-Dame de Paris après être passés à l'Élysée où ils ont reçu les remerciements du président de la République. Certains d'entre eux étaient sur le parvis de l'hôtel de ville. Une cérémonie cet après-midi plus populaire devant des centaines de Parisiens. Et puis encore des promesses de dons. Aujourd'hui, le Comité international olympique promet 500 000 euros. Il espère que la cathédrale soit reconstruite pour les Jeux olympiques de 2024. Le football, ce soir, la Ligue Europa. On joue les 4 quarts de finale dans 40 minutes, avec notamment Naples-Arsenal. Les Anglais l'ont emporté 2-0 à l'aller contre les Italiens.
France Info. 20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, Véronique Reilsoult, je vais vous faire un petit peu plancher là à présent. La plupart des annonces dans notre enquête, ces annonces qui ont fuité finalement et que le président était susceptible d'annoncer, je prends des précautions oratoires lundi dernier, eh bien sont jugées conformes aux conclusions du grand débat. Expliquez-nous.
Écoutez, pour la plupart des Français, 4 Français sur 6, donc on peut dire que la grande majorité des Français trouvent que les annonces, elles sont plutôt dans la logique de ce qu'ils ont compris des débats.
4 sur 6, pardonnez-moi. Ouais. C'est... Par rapport à 10, ça fait quoi enfin,
ah, ça fait
4 sur 6, c'est bizarre. Comme...
Allez, ça fait 7 sur 10.
Ça fait 7 sur 10,
d'accord,
voilà.
Pardon, excusez-moi.
Non, c'est une logique mathématique, pourquoi pas.
D'accord. Allez.
Mais disons que globalement, ils trouvent que c'est plutôt conforme. Oui. Et quand on égrène les différentes mesures, globalement, il y a des mesures qui obtiennent des scores qui sont plus qu'intéressantes. Alors bien évidemment, la réindexation sur les retraites obtient 74% d'approbation et c'est assez logique. En tout cas, c'est
même
jugé
s'il
comme
ne
étant...
ne s'agit pas de toutes les retraites,
même
ce sont
ne
les
s'agit
petites
pas,
retraites. Oui.
Des retraites en dessous de 2000 euros. 77% aussi des Français approuvent la baisse des impôts pour la première tranche. Donc globalement, deux mesures qui sont plutôt très bien acceptées et qui sont jugées comme conformes à ce que l'on pouvait attendre. Par contre, quand on commence à rentrer sur des sujets où il va falloir plus travailler, là, ils sont un peu moins d'accord.
Je sens un brin ironique. Quand vous leur dites, donc, plus difficile de demander aux Français de travailler plus pour financer des mesures.
C'est ça.
3 Français sur 4, opposés.
Voilà, parce que globalement, s'il faut repousser la date de départ à la retraite, ils trouvent que c'est pas forcément une solution qui va résoudre leurs problèmes. En tout cas, ils sont pas forcément d'accord. Quand on leur dit qu'il faut arrêter les 35 heures globalement à 50%, ils disent que pourquoi pas, mais c'est pas forcément une bonne idée. Et puis, si on demande aux salariés, ils trouvent là carrément que c'est pas une bonne idée du tout quand on fait des tris. Et puis, globalement, sinon, sur l'ensemble des autres mesures, en particulier celles qui sont sur le référendum, un référendum local, rappelez-vous, dans les mesures qui ont
fêté. Pour le RIC,
voilà, un RIC local et un RIP sous condition. Oui. Globalement, là, on est à 59%, donc on va dire que là aussi, c'est plutôt positif. Donc, un accueil aujourd'hui
plutôt favorable,
même si on voit bien qu'il demande à ce que ce soit expliqué, présenté dans une logique plus globale, que ça ressemble quand même plus à un catalogue de mesures, même s'ils sont favorables à ces mesures et qu'ils réclament que le président donne un sens à ces mesures et explique le cap qu'il voudrait donner à ces mesures.
On a bien compris qu'il s'agissait de fuite, mais qu'elle partait finalement du texte que souhaitait lire le président de la République s'il n'y a pas eu l'incendie de Notre-Dame de Paris. Arnaud Benedetti, quand vous regardez cette forme d'acceptation relative favorable en fonction du sondage. Que dites-vous que nous sommes proches d'une sortie de crise ou pas?
C'est encore trop tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que, si vous voulez, il a 3 enjeux. Il a un enjeu social, il a un enjeu fiscal et il a un enjeu institutionnel. L'enjeu fiscal, c'est de créer un choc fiscal, mais le problème, c'est que il faut jamais oublier que la révolte des Gilets jaunes, c'est une révolte des territoires et c'est une révolte aussi qui demande plus d'État. Donc l'équation va être quand même assez compliquée à résoudre. L'enjeu social, on voit bien qu'il y a une demande de redistribution et de protection. Le problème, c'est que le corset budgétaire quand même de Maastricht ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour donner du mou social. Et ensuite, il y a la demande institutionnelle qui s'est greffée, disons, dans un deuxième temps, lors de la mobilisation des Gilets jaunes. Est-ce que le RIC proposé à l'échelon local suffira, d'une certaine façon, à satisfaire la demande de démocratie plus directe? C'est une question. Au demeurant, je suis pas sûr que les élus locaux qui se sont mobilisés lors du grand débat soient très favorables au RIC dans leur commune. Ce qui, pour certains d'entre eux, va poser un certain nombre de problèmes, notamment quand ils auront de gros investissements à mener.
Ouais, Jeannick Halimi, vous qui sondez dans Le Parisien aujourd'hui en France, régulièrement les Français, il y a des sujets très populaires. Quand on dit que les Français ne veulent pas, 3 Français sur 4 sont opposés à la suppression d'un ou deux jours de congé, notamment. Vous sentez qu'il y aura de fortes résistances demain si de telles propositions étaient mises sur la table?
Écoutez, c'est possible quand on demande aux gens de travailler plus sans leur expliquer pourquoi, comment, etc. C'est possible qu'il y ait des réticences, voire des refus, des résistances et une opposition. En revanche, et c'est là où un des défis que doit relever Emmanuel Macron, et franchement, je pensais que ça allait être le cas, mais encore une fois, méfions-nous des fuites qui ont été égrenées. L'ensemble du discours n'a pas du tout été livré, n'a pas été dévoilé. On peut espérer que le discours tel qu'il avait été prévu donne un sens et que ce sens va pouvoir être donné, comme le disait Véronique, par le président de la République lorsqu'il parlera. Donc, moi, je suis étonnée par une chose, par une absence, aussi bien dans ces fuites que dans le sondage de Véronique Reichshoult, pardonnez-moi, c'est l'écologie. Il n'y a rien sur l'écologie, aussi bien dans les mesures que dans les regrets ou de l'opinion publique. Je pense, pardon, C'est tout? Bon, bah, écoutez, d'accord. Non, je pense qu'il va devoir préciser.
Arnaud Gonzague, non, ah bon, d'accord. Vous aurez le temps, vous aurez le temps, Jannick.
D'accord. Enfin bon, donc, en tout cas, je m'arrêterai là.
L'écologie. Vous avez raison, l'écologie. Vous êtes d'accord avec ça, Arnaud
Gonzague? On dit toujours, effectivement, il y a l'ISF qui a été oublié, mais ça, d'une certaine manière, il a été évacué depuis le début du grand débat. L'écologie était quand même centrale dès le départ, puisque tout ça est né, je vous rappelle, une taxe carbone. Et il n'y a pas une trace de quoi que ce soit d'écologie là-dedans.
Il est possible que cette thématique revienne la semaine prochaine quand viendront les annonces du chef de l'État. Nous marquons une pause. Il est 20h28 sur France Info. Nous nous retrouvons dans un instant après la météo et le rappel des infos pour la suite des informés.
Pollen, acariens, bactéries, virus, moisissures, poils d'animaux, formaldéhyde, tous ces polluants et allergènes sont retrouvés dans nos maisons. En fait, l'air intérieur peut être 5 fois plus pollué que l'air extérieur. La bonne nouvelle est que le purificateur Dyson PureCool capture plus de 99% des particules aussi fines que les virus chez vous pour que vous ne les respiriez plus. Dyson PureCool, changez d'air. Pour en savoir plus, visitez Dyson.fr. Testé par l'Institut Pasteur de Lille sur le virus H1N1 en septembre 2018.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com.
La météo, les prévisions, avec vous Sébastien Léas pour Météo France.
La journée de demain sera encore particulièrement douce, les températures gagnant même quelques degrés. À Perpignan, Nice et Biarritz, il fera 19 degrés, mais quasiment partout ailleurs, les 20 degrés seront atteints ou dépassés. Prévoyez 21 degrés à Toulouse, au Havre et à Mulhouse, 23 degrés pour Dijon, Reims, Marseille et Beauvais, 24 degrés à Paris et à Grenoble, 25 degrés à Rennes, Bourges et Bordeaux, et à Limoges, il fera même 27 degrés. Côté ciel, la matinée sera encore bien voilée demain, entre l'Aquitaine et le quart sud-est, notamment au sud de la Garonne. Ce voile va devenir de plus en plus fin au fil des heures et le temps deviendra plus ensoleillé l'après-midi avec tout de même plus de nuages près des Pyrénées. Sur une large moitié nord, la journée se passera sous le soleil. Des nuages vont quand même bourgeonner entre la Franche-Comté, l'Alsace et la Lorraine. Des averses pourront se produire l'après-midi avec même quelques coups de tonnerre. Comme aujourd'hui, on gardera encore du vent sur les régions du sud, le vent d'autant restant violent avec des pointes à plus de 100 km par heure.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
L'heure est tout juste 30 minutes sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Romain Desec.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Deux enfants sont en urgence absolue ce soir près de Toulouse, à Bessins. Un arbre de leur cour d'école leur est tombé dessus, Marine Proté.
L'arbre, a priori un marronnier, est tombé pendant la récréation cet après-midi dans l'école primaire et maternelle du village. Les secours ont été alertés peu avant 16h. Trois enfants se sont retrouvés coincés sous l'arbre. Deux sont dans un état d'urgence absolue. Deux garçons âgés de 7 et 8 ans. Ils se sont retrouvés bloqués par des branches. L'un souffre d'un traumatisme abdominal. Il a été héliporté vers un hôpital de Toulouse. L'autre garçon, encore plus gravement blessé, a été transporté par voie routière. Le troisième enfant, une petite fille, est parvenue à s'extraire seule assez rapidement. Elle ne souffre que de contusions. Une cellule psychologique a été activée pour accueillir les parents, les enseignants et les élèves. L'école sera fermée demain. Pour le moment, les raisons de la chute de l'arbre restent inconnues. Selon le directeur de cabinet du préfet qui s'est rendu sur place, il n'y a pas eu de gros coups de vent aujourd'hui. Une analyse sanitaire de l'arbre doit être effectuée.
Marine Proté pour France Info. Les pompiers à l'honneur toute la journée pour avoir sauvé Notre-Dame de Paris. Ils ont été reçus ce matin à l'Élysée, puis remerciés par Anne Hidalgo lors d'une cérémonie sur le parvis de l'hôtel de ville. Une première victoire pour les salariés de l'APHP. Martin Hirsch, directeur général des hôpitaux de Paris, annonce sur France Info la multiplication par 10 de la prime de dangerosité pour les urgentistes. Elle passe ainsi de 6 à 60 euros par mois. Par ailleurs, 61 postes sont créés, création d'emplois qui seront indexés sur l'affluence dans les établissements, promet Martin Hirsch. Une grève de 24 heures est lancée à partir de ce soir. Certains personnels le sont déjà depuis lundi. Vigilance sur l'ibuprofène et le kétoprofène, deux anti-inflammatoires largement utilisés en France. L'Agence de sécurité du médicament met en garde contre un mauvais usage de ces médicaments, par exemple pour des maux de tête, de la fièvre ou encore des maux de gorge. Plus de 300 cas de complications ont été répertoriés depuis 20 ans, dont 42 décès. Aux États-Unis, une enquête de près de 400 pages, dont les conclusions tombent au fur et à mesure. Le rapport Mueller a été dévoilé au public cet après-midi aux États-Unis. Enquête sur les éventuelles collusions entre l'équipe Trump et la Russie. Il y a bien eu une rencontre et une demande d'aide américaine, demande rejetée par Moscou. Autre enseignement, l'entourage de Donald Trump a bien cherché à limoger le procureur Mueller, chargé de l'enquête. Il y a du football ce soir en Ligue Europa, quart de finale retour, avec Naples qui tentera de refaire son retard de 2 buts face à Arsenal. Le coup d'envoi, c'est à 21h. Et puis un mot de tennis, c'est terminé pour Pierre-Hugues Herbert à Monte-Carlo. Le dernier tennisman français en lice a été balayé 6-4, 6-2 par le croate Borna Koric. Tout de suite, la suite des informés avec Jean-François Killy.
France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités, Véronique Reil-Soult, directrice générale de Dentsu Consulting, avec Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France, Arnaud Gonzague, co-chef du service société à l'Obs, avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne. Alors les hommages se sont poursuivis aujourd'hui, 3 jours après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Honneur aux sapeurs-pompiers de Paris, dont la bravoure évidemment a permis de préserver une partie, vous le savez, de la cathédrale, reçue à l'Élysée par Emmanuel Macron. 250 pompiers de Paris tout de même, et d'Île-de-France, des policiers, des membres de la Croix-Rouge, de la protection civile réunis dans la salle des fêtes de l'Élysée. On écoute le lieutenant-colonel plus porte-parole des pompiers de Paris.
C'est une grande joie, un grand honneur. Mais en même temps, pour les pompiers de Paris, c'est une unité humble, discrète. Donc là encore, c'est le collectif des soldats du feu qui s'est exprimé. C'est l'effort individuel et collectif de mes camarades qui se sont engagés, qui a été souligné. Ceux de la BSPP, ceux de la Grande Couronne, des pompiers qui sont venus nous soutenir, des associatifs, la Croix-Rouge, la Protection Civile, nos camarades policiers. Voilà, c'est la cohésion de l'État qui a été soulignée et ça fait chaud au cœur.
Ça fait chaud au cœur, nous dit ce commandant de pompiers. Jeannick Halimi, hommage nécessaire.
Ah bah oui, nécessaire, légitime. Là, je pense que personne n'aura rien à redire contre cela, comme le disait le monsieur Plus.
Si monsieur Plus.
Dire, monsieur Plus. Il y a la bravoure, hein, il y a le courage de ces gens-là. Il y a le coup de chapeau à l'État qu'il faut donner, mais il y a aussi l'intelligence de l'ensemble du corps des sapeurs-pompiers. Franchement, le Pékin que je suis, enfin, et je n'étais pas seule, il y avait aussi Donald Trump qui était sur le même registre. Oui. Qu'il fallait mettre le plus d'eau possible pour éteindre le plus. Et on s'est rendu compte, et eux, ils s'en sont rendus compte, enfin, parce qu'ils ont l'intelligence de la chose, d'être des situations très très vite, qu'il fallait au contraire donner dans la, faire dans la dentelle. On va pas revenir sur les lances qu'ils ont utilisées et pas les canadaires qu'ils auraient pu utiliser, qu'ils ne l'ont pas fait. Donc il y a la bravoure, il y a l'intelligence, il y a le sens de l'État. Ça me paraît évident qu'il fallait leur rendre un hommage plus qu'appuyé.
Jeannick Halimi et Donald Trump, même combat ce soir donc.
Oui, c'est très bien.
Arnaud Gonzague, le chef de l'État a exprimé aussi la fierté de toute la France. On attaque beaucoup l'État, a-t-il dit, la puissance publique, mais dans ces moments où le feu est là, où la menace, je le cite, est la pire, l'État a cette force extraordinaire d'un seul coup de s'organiser. Quand je dis l'État, c'est la nation tout entière, c'est toujours le moment d'envoyer quelques messages subliminaux.
Oui, c'est ça, il y a une métaphore claire de « nous sommes tous unis ». Il a même dit « nous sommes tous unis pour vaincre ». Il faut que nous soyons tous unis pour vaincre. Alors vaincre quoi? Je ne sais pas ce qu'il faut vaincre, parce qu'il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas une guerre. C'est un accident tragique, mais c'est un accident. Mais c'est vrai que là, le président joue un peu sur du velours en accueillant les pompiers. Il est sûr de faire corps avec les corps de la nation, on pourrait dire. Il a nommé le général Georges Lain, donc l'armée, avec tout le luxe, la popularité que peut avoir l'armée en France. Il y a évidemment l'église qui est pas très loin. Maintenant, il y a les pompiers. Bon, il reste les policiers, quoi, à associer.
Alors, hommage de Paris également en présence d'Anne Hidalgo sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Hier soir, c'est Brigitte Macron qui participait à une messe à Saint-Sulpice. On réécoute la première dame et vous réagissez.
Cette cathédrale, c'est notre histoire. C'est notre patrimoine, c'est notre culture. N'oubliez pas, merci Victor Hugo, je suis un prof de lettres. N'oubliez pas ce que Michelet a dit d'elle, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une cathédrale de poésie. Elle est là. D'abord, ça n'est pas un phénix parce qu'elle n'est pas en cendres. Elle est là. elle va revivre encore mieux, peut-être plus haute. Elle, de toute façon, elle sera toujours aussi belle. Et c'est peut-être aussi le symbole de tout ce qui nous unit. C'est un message qu'elle nous envoie.
Arnaud Benedetti, le président, et auparavant, là, la première dame, en première ligne, elle dit le symbole de tout ce qui nous unit. L'épouse du président fait de la politique également.
Oui, peut-être, elle fait de la politique. Mais si vous voulez, toute cette séquence, elle est intéressante parce qu'elle nous dit quelque chose de la rhétorique macroniste. C'est le sauvetage et la reconstruction. Il se sert de la parabole de l'incendie de Notre-Dame pour, d'une certaine façon, vous l'avez dit, illustrer son discours politique. Le sauvetage, il veut sauver la France puisqu'il dit que la France est en panne, donc il faut la réformer. Et il parle de reconstruire la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. C'est aussi la reconstruction de la France à laquelle il dit s'atteler. Donc il y a finalement, disons, dans la volonté d'Emmanuel Macron, et c'est là qu'il y a le risque finalement en termes de communication, parce qu'à un moment donné, il faut éviter de trop sursouligner la métaphore. Ouais. Il y a la volonté, en tout cas, à travers cet événement, de faire une sorte de pédagogie de la philosophie de son action. Je crois que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, transparaît de manière assez forte depuis 48 heures. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps.
Alors, pédagogie, dit à l'instant Arnaud Benedetti, Véronique Ré- que disent les réseaux sociaux là-dessus, sur cette grande séquence où, au fond, le président, voire son épouse, essaie d'expliquer à la France la cohésion nationale.
Disons que ce qu'on disait tout à l'heure, au début, c'était bien perçu. Plus ça traîne, plus ça devient compliqué. Mais évidemment, quand il va saluer les pompiers, comme tous les Français sont d'accord pour dire que les pompiers étaient exceptionnels, c'est difficile de l'attaquer. Les moments où il est plus mis en difficulté, c'est par exemple le Conseil des ministres sur le sujet de Notre-Dame. Ça a été beaucoup moins bien perçu par les Français et par les internautes qui disent « Bon, là, il y a un moment donné où ça devient un peu beaucoup, un peu étrange. Rendre hommage aux pompiers, c'est normal et c'est peut-être sans doute le rôle du président de la République. Continuer à tirer cette métaphore et à parler ainsi pendant aussi longtemps, ça devient un peu plus compliqué, et puis plus ça va traîner, plus ça va devenir mal perçu et comme une récupération, alors que à la base
que c'est une séquence légitime. Jean-Nic Alimi, il y a également cette forme de balancier finalement. Il y a quelques jours, les forces de l'ordre étaient encore ciblées dans des manifestations, et là nous avons les secours qui sont au fond légitimement glorifiés pour ce qu'ils ont fait en faveur de Notre-Dame. Il y a aussi cette nécessité à peut-être rappeler le rôle des forces de l'ordre dans ce pays.
Oui.
Et de sécurité. Et de secours.
Et de secours, oui. Ça paraît logique. On peut contester le fait que les forces de l'ordre aient été des cibles ou pas pendant les Gilets jaunes. On ne va pas revenir sur cette polémique, bien évidemment. Mais bon, c'est logique. D'un côté, on sauve un symbole. On ne va pas revenir sur ce que représentait la cathédrale, ce que représente toujours la cathédrale Notre-Dame. De l'autre, on est au contraire dans une sorte de clivage terrible, de mécontentement, de révolte. Et bien que les forces de l'ordre soit également un objet de clivage et de cible, ça me paraît d'une rationalité à toute épreuve. Je voulais juste dire aussi que sur la métaphore cultivée par Emmanuel Macron, quel chef de l'État dans ce contexte-là ne l'aurait pas fait? Après, bon, on peut estimer qu'il a mieux fait la première fois dans la spontanéité lundi soir sur le parvis au chevet de Notre-Dame que le lendemain. Et moi, je pense, juste pour terminer, que quelque part aussi, pour moi aussi, filer la métaphore, la sortie du grand débat pour Emmanuel Macron, ça sera la reconstruction de Notre-Dame.
Allez, 20h40 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules Dekis.
La baisse de l'impôt sur le revenu, l'indexation des retraites inférieures à 2000 euros sur l'inflation et un moratoire sur les fermetures d'écoles et d'hôpitaux, ces trois mesures qui auraient dû être annoncées lundi soir par Emmanuel Macron sont les plus plébiscitées par les Français. Ce sont les conclusions de notre sondage au Doxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. En revanche, ils sont un tiers seulement à penser que la suppression de l'ENA correspond à leurs attentes. Accusé de harcèlement sexuel, Thomas Guénolé va porter plainte contre une militante de la France Insoumise. Plainte pour dénonciation calomnieuse. Il annonce ce soir sur France Info et dit préparer également une plainte contre le parti de Jean-Luc Mélenchon. Il dénonce un mécanisme accusatoire stalinien qui viserait à l'écarter de la formation politique. Face à la grève, la direction de l'assistance publique hôpitaux de Paris lâche du lest. Elle débloque 61 postes pour les services d'urgence. Elle annonce aussi sur France Info l'augmentation de la prime de dangerosité des personnels. Elle va passer de 6 à 60 euros par mois. Deux enfants sont encore en urgence absolue ce soir, soignés dans un hôpital de Toulouse. Un arbre leur est tombé dessus cet après-midi dans la cour de leur école primaire à Bessens, au sud de Montauban. Aux États-Unis, les démocrates disent trouver dans le rapport Mueller des preuves inquiétantes d'entrave à la justice par Donald Trump. Le procureur qui a mené l'enquête vient de remettre son rapport. Il dit ne pas pouvoir exonérer le président américain sur ces soupçons-là. En revanche, il le blanchit sur le fond. Pas de collusion avec Moscou pour conquérir le pouvoir.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
La sortie du grand débat passera par la reconstruction de Notre-Dame. Je cite à l'instant Jeannie Calimi. C'est plutôt pas mal. La question, c'est comment ou même en combien de temps? Eh bien, 5 ans, vous le savez, a annoncé Emmanuel Macron mardi soir. Voici ce qu'en a dit Raphaël Glucksmann, la tête de liste Parti Socialiste et Place Publique, qui était l'invité de Territoire d'Info sur Public Sénat ce matin.
Arriver et dire on va le faire en 5 ans. Je ne sais pas, enfin, les experts disent que ça prendra 10 ou 15 ans pour reconstruire. J'aimerais surtout, moi, qu'on fasse très attention à pas mal la reconstruire, c'est-à-dire à ne pas détruire l'âme de Notre-Dame. Donc, si ça prend 10 ans, ça prendra 10 ans. Si ça prend 15 ans, ça prend 15 ans. C'est pas le président de la République qui va décider du temps que prend un chantier.
Arnaud Gonzague, le président n'avait pas fixé d'objectif?
Ce qui est drôle, c'est que ce qui est majestueux chez Notre-Dame, c'est le temps qu'on a mis pour la construire. C'est quand même une cathédrale qu'on a construite en 2 siècles. Hein. C'est pas 5 ans. Alors effectivement, après cette bonne guerre de la part du président, de vouloir fixer un objectif, parce que quand on est tous émus face à un drame qui paraît aussi arbitraire et aussi extraordinaire, il est bon qu'une personne vous dise on va te donner une solution. Et donner une solution dans un temps bien précis, ça donne l'impression qu'on maîtrise les choses. Hein.
Mmh. Arnaud Benedetti, un président qui fixe un objectif, c'est pas nouveau.
Non, ça c'est le côté Kennedy de Macron,
sur la Lune.
Vous savez. Oui, oui. On mettra 10 ans pour aller sur la Lune, et c'est à peu près ça. Mais ceci dit, moi je crois que, si vous voulez, encore une fois, je suis pas du tout un expert en matière de reconstruction de cathédrale, mais ce qui est vrai, c'est que manifestement, Emmanuel Macron veut montrer qu'il est d'abord volontariste. Le volontarisme fait partie aussi de son image. Et il veut montrer que face à une situation qui est une situation exceptionnelle, ben, il ne perd rien de ce volontarisme. Donc il affiche des messages, même si on peut imaginer que peut-être les objectifs qu'il se fixe au regard du chantier qui est à conduire ne seront peut-être pas respectés.
Mais alors, Véronique Ressoult, les médias ont abondamment, c'est pas fini, couvert tous les aspects techniques, historiques, liés à Notre-Dame avec des cartons d'audience. Il faut le rappeler. Mmh. Les Français se passionnent pour le sujet.
Les Français se passionnent pour le patrimoine. Je rappelle qu'il y a eu un loto auquel ils ont largement contribué. Enfin voilà, le patrimoine, c'est un vrai sujet. Les émissions qui portent sur le patrimoine ont toujours des très bons scores d'audience. Et puis, en plus, l'émotion qu'il y a eu là fait que tout d'un coup, il y a un regain d'intérêt pour Notre-Dame, sa construction, son histoire, la littérature. Rappelez-vous que Les Misérables sont en rupture de stock partout parce que voilà, il y a un moment donné, on a envie de se replonger dans cette histoire. Donc déjà,
il y a une appétence. C'est plutôt rassurant d'ailleurs.
C'est plutôt rassurant, c'est plutôt sympathique.
Oui, c'est très rassurant. Ça montre que les Français sont attachés à leur histoire et à leur littérature, ce qui est très bien. Mais quand même, il y a un sujet qui est très peu abordé. C'est le sujet quand même du patrimoine. C'est le sujet du budget consacré, notamment à la préservation du patrimoine. Je rappelle que ce budget, il est de l'ordre à peu près de 330 millions d'euros. C'est dire la faiblesse, finalement, du budget du ministère de la Culture consacré à la gestion et à la protection de notre patrimoine.
Alors, figurez-vous que sur les réseaux sociaux, ça a été très commenté. Voilà. C'était l'un des messages. Plus que de critiquer les dons dont vous parliez tout à l'heure, où globalement, il y a bien sûr une petite polémique, mais pas si grande que ça sur les réseaux. En revanche, beaucoup de questions sur la réalité du montant aujourd'hui pour le patrimoine, la réalité des interventions qui étaient très émouvantes aussi de Monsieur Bern, qui a résonné dans l'opinion publique. Et globalement, ils ont découvert qu'il y avait 396 millions exactement consacrés par an, et les uns et les autres trouvent que, au regard de ce qui a été obtenu là, c'est finalement assez peu.
Et à l'instant, nous apprenons que en ce qui concerne la 23e journée de mobilisation des Gilets jaunes à Paris, les manifestations seront interdites samedi autour de Notre-Dame et sur les Champs-Élysées. Véronique Reilsoult, gardez la main, je sais que vous vouliez évoquer un aspect de l'enquête Odoxa d'Ansu Consulting qui concerne un sujet qui fait beaucoup parler.
Ben, en fait, c'est l'ENA. Je voulais qu'on en parle parce qu'on a parlé
l'École
des autres
L'École nationale
mesures. Voilà.
D'administration.
Parmi les mesures qui auraient peut-être été annoncées lundi soir, il y avait donc la suppression de l'ENA. Et donc, elle a été testée, cette mesure, et il n'y a que 37% des Français qui sont pour. La question était de se dire, ben, donc en fait, ils sont pas si motivés que ça. En fait, en réalité, quand on regarde et que je le couple avec les réseaux sociaux, ils s'en fichent.
Ça n'est pas un sujet. Les Français,
c'est pas un sujet parce qu'en fait, on voit bien, ils disent mais de toute façon, ça sera remplacé par une autre école et c'est un système global.
Le problème, c'est pas l'ENA en soi. Qu'il fallait réformer l'ENA, je crois qu'on est tous d'accord. On sait qu'il y a un problème, un entre-soi dans les élites françaises qui est pas nouveau. Ça fait longtemps que ça a été très dénoncé. Mais pour mettre quoi à la place? Le problème est là.
S'il n'y
a pas une alternative, les gens peuvent pas vraiment se prononcer.
Yannick Halimi, vous dites pas touche à l'ENA ce soir?
Alors, pas touche à l'ENA sous réserve d'en ouvrir l'accès, comme ça a été souvent le cas. Il y avait un troisième tour où c'était ouvert aux syndicats, aux militants syndicaux.
Très peu, je suis d'accord.
Donc, bon, qu'ils aillent un peu plus sur le terrain, même si c'est déjà le cas. Mais certes, pourquoi pas. Mais ce qui m'inquiète, c'est que, peut-être que les Français, dans vos sondages, Véronique Reissoult, ne trouvent pas que ce soit une question extrêmement importante. Ça l'est pour une partie des Gilets jaunes et pour une partie de la société française qui se reconnaît et qui porte haut le discours anti-élite et donc également anti-ENA où la chose est clairement prononcée. Ce qui m'inquiète, c'est que quelqu'un comme Emmanuel Macron, alors je vous refais pas le pitch ou le speech, lui-même en est sorti, lui-même a mis à la tête de la liste des européennes l'ancienne directrice de l'École nationale d'administration, mais que Emmanuel Macron, qui lui se pose contre ces discours anti-élitistes, anti-populistes, voilà.
Ça vous chagrine.
Moi, ça m'inquiète de sa part. C'est l'effet wow, c'est un effet qui, au contraire, au lieu de donner du souffle, si ça passe par uniquement la suppression, si ça passe même pas qu'uniquement, si ça passe par la suppression de l'ENA, qui est une des forces. Ouais. De notre République, une des forces de notre État, un des atouts que l'État français et que la France a, je trouve que c'est complètement à côté de la plaque et que c'est inquiétant.
Alors, Véronique Reissoult, qu'est-ce que vous répondez à Yannick Halimi?
Donc, qui clairement, ce sujet lui tient à cœur, mais c'est pas, quand je dis que c'est pas important pour eux, on revient à ce sujet de sens. Forcément, ces mesures, elles sont sorties sans avoir le discours autour. Donc, leur sujet, c'est, bien sûr, c'est un symbole, mais ils disent, mais si c'est supprimer ce symbole sans nous raconter ce qui se passe autour, finalement, on remplacera ce symbole par un autre symbole qui sera une autre école. Donc, c'est plus un sujet de, il ne faudrait pas qu'on s'attache en se disant, on a résolu ce problème de l'élitisme par la suppression de cette école. C'est pas ça le sujet.
C'est pas ça le sujet. Arnaud Benedetti, le discours sur
Yannick, je vais rassurer Yannick Halimi. Les formes multiséculaires de l'État avaient commencé, de construction d'État avaient commencé avant l'école nationale d'administration. Mais il faut se souvenir que quand on crée l'école nationale d'administration en 45, c'est parce que on veut réformer l'État. Que le
Bien
général
sûr,
de Gaulle considère que l'entre-deux-guerres n'a pas permis la réforme de l'État. Mais par contre, ce qu'il faut, en effet, c'est réformer l'ENA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contenu pédagogique de l'ENA, c'est quoi? C'est une très mauvaise économie politique et un peu de droit public. Et il faut vraisemblablement réinsuffler de la culture générale, réinsuffler de la culture historique. Et c'est ce qui manque aujourd'hui de manière assez criante dans les nouvelles générations d'énarques qui arrivent sur le marché des institutions.
C'est un petit peu comme Notre-Dame de Paris. Vous gardez le bâti et vous reconstruisez à l'intérieur, c'est ça?
Vraisemblablement, oui, c'est nécessaire.
Allez, 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules De Kiss.
Les accusations de soutien de la France au général Haftar sont infondées, explique ce soir le Quai d'Orsay. Le gouvernement libyen a affirmé plutôt que Paris soutenait le militaire qui tente de le renverser. Il mène une offensive armée depuis le début du mois. Tripoli annonce couper sa coopération avec la France. Des rassemblements de policiers demain devant les commissariats. Tous les syndicats appellent à se mobiliser pour dénoncer la série de suicides dans la profession. Elle s'est encore prolongée cette semaine. L'intersyndicale demande à être reçue en urgence par le ministre de l'Intérieur. Elle souhaite que le plan de lutte contre le suicide devienne une cause nationale. L'hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris et à celles et ceux qui l'ont sauvée. C'est devant ces mots inscrits sur l'hôtel de ville que la maire de la capitale, Anne Hidalgo, a salué le courage des pompiers mobilisés lundi soir. Cérémonie devant plusieurs centaines de Parisiens. L'ibuprofène et le kétoprofène sont des médicaments utiles mais qu'il faut utiliser à bon escient. L'Agence nationale du médicament alerte sur France Info sur des complications possibles à cause de ces anti-inflammatoires. On en retrouve dans le Nurofen ou l'Advil. Il faut les prendre en respectant scrupuleusement la notice. Juste après un nouvel essai militaire nord-coréen qui irrite les États-Unis, le dictateur Kim Jong-un annonce un premier sommet bilatéral avec Moscou. Il aura lieu en Russie avant la fin du mois. Puis Naples, Arsenal, Chelsea, Prague, Francfort, Benfica et Valence Villarreal. Ce sont les 4 matchs du soir en Ligue Europa de football. Quart de finale retour, coup d'envoi dans moins de 10 minutes maintenant.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Que se passe-t-il au sein de la France insoumise? Thomas Guénolé est sous le coup d'une procédure interne à la France insoumise après le témoignage d'une jeune femme dénonçant un comportement qu'elle juge inapproprié. Eh bien, le politologue qui est candidat LFI aux élections européennes va saisir la justice. Il l'a annoncé dans le 19-20 politique sur France Info avec Jean-Jérôme Berthelust et Gilles Bornstein.
Je me retrouve en train d'être broyé dans un mécanisme accusatoire stalinien. Il n'y a pas d'autre mot quand on vous refuse les droits les plus élémentaires, y compris de savoir précisément de quoi vous êtes accusé. J'ai estimé qu'il était de mon devoir de lancer une alerte publique que j'ai faite ce matin. Et cette alerte, c'était d'exposer tout ce que j'ai compris sur ce qu'est la machine France Insoumise. J'annonce ici que mon avocat va porter plainte contre l'accusatrice pour dénonciation calomnieuse. Par ailleurs, une plainte est également en préparation contre la France insoumise. Je ne me laisserai pas attaquer sans bouger.
Jean-Luc Halimi, une histoire assez complexe hein, que nous commençons à découvrir peu à peu. Au fond, Thomas Guénolé, accusé de harcèlement sexuel, disons les choses, eh bien dénonce, lui, une dérive autoritaire au sein de LFI. Ces mots sont assez durs quand même. Il parle d'un Jean-Luc Mélenchon autocrate, je le cite. Hein. Il qualifie la formation de dictature. Qu'est-ce qui se passe chez LFI?
Alors moi, je ne me prononcerai pas du tout sur l'affaire Guénolé en tant que telle et de harcèlement sexuel.
Lui-même a devancé la chose. Hein, il a sorti un communiqué pour devancer cette affaire. Voilà.
Oui, alors certains, notamment parmi les proches et comme Alexis Corbière, les proches de Jean-Luc Mélenchon, qui se disent d'ailleurs très proches également de Thomas Guénolé, sont extrêmement étonnés que Thomas Guénolé ne leur en ait pas parlé auparavant. Mais je n'entrerai pas dans ce débat, je n'en connais ni les tenants ni les aboutissants. Une chose est sûre, c'est que ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon est accusé par certains des membres du mouvement d'avoir un comportement extrêmement autocratique. Monsieur Guénolé rajoute aussi des toiles d'araignée avec une sorte de caste de clan avec lesquels gouverne Jean-Luc Mélenchon, avec un homme de paille qui serait le numéro 2, Monsieur Bompard, Manuel Bompard, et puis Sophia Chikirou qui a été la DIRCOM de sa campagne. Bon, une chose est sûre, aussi, une seconde chose est sûre au-delà des critiques qui sont renouvelées contre l'autocratie de Monsieur Mélenchon, c'est que le parti de la France Insoumise n'est pas un parti, justement, que c'est un mouvement qui est fait de différents courants, qui n'est pas structuré, qui est très neuf, qui est très nouveau.
Et de personnalités assez fortes.
Et de personnalités très fortes qui demandent effectivement à être un peu canalisées et dont la doctrine politique doit être aussi synthétisée. Et c'est une chose aussi que regrette de ne pas avoir beaucoup de partis politiques aujourd'hui en France, c'est d'avoir un vrai leader. On peut penser ce qu'on veut, encore une fois, non seulement de la doxa de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon en tant que tel. C'est un leader, c'est un tribun, c'est quelqu'un qui, pour le moment, arrive à tenir son mouvement qui, sans lui, certains le disent, certains le contestent, mais certains le disent,
ne serait pas
éclaterait.
Oui, éclaterait. Vous êtes d'accord avec ça, Arnaud Gonzague?
On est toujours très embarrassé par ce genre d'affaires, parce qu'effectivement, soit la France Insoumise a été au courant de comportements inappropriés, comme on dit aujourd'hui, et elle a effectivement très bien fait de mettre en place des sanctions, soit c'est une manipulation. Moi non plus, j'ai pas aucun avis sur la question.
On n'en sait pas plus.
Ce sera la justice de trancher tout ça. Dans tous les cas, s'il y a effectivement une manipulation, c'est une manipulation qui est scandaleuse. Ça, c'est incontestable. Thomas Guénolé a raison, si c'est le cas.
Arnaud Benedetti, c'est un parti, une formation, comme le précisait Jean-Luc Halimi, avec effectivement de très fortes personnalités.
Oui, c'est une formation politique et c'est peut-être la seule formation politique depuis ces derniers mois qui a pu susciter autant de personnalités très fortes sur le plan de la scène médiatique et sur le plan de la scène politique. On voit que le groupe parlementaire, par exemple, de la France Insoumise, qui est un petit groupe quand même, bénéficie d'un certain nombre de parlementaires qui sont très en vue et qui sont d'ailleurs d'assez bons parlementaires, en tout cas sur le plan de la technique parlementaire et sur le plan j'allais dire même presque de l'art oratoire. Donc il a indéniablement Jean-Luc Mélenchon réussi à conduire avec lui une génération qui est extrêmement forte sur le plan du caractère, mais moi ce qui me frappe quand même dans la France Insoumise, c'est la violence des rapports de force. Et là, on retrouve quand même une caractéristique qui est une caractéristique très forte à l'extrême gauche, blanche, où en effet, les rapports de force en général se règlent à coup de purge.
Véronique Relsoul, sur cet aspect des choses, le rapport de force.
Le rapport de force, on le voit bien, ce sont des militants France Insoumise qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, très virulents, très engagés, et généralement, on a droit à des battles très violentes, donc ça va
des battles, c'est-à-dire des bagarres,
des batailles, entre, oui. entre très très virulentes, avec des mots qui parfois sont extrêmement forts. Généralement, on finit même par des traités de trolls, c'est-à-dire de dire qu'ils viennent insulter, ils se mettent sur quelqu'un et ils le suivent. Donc oui,
très actif sur les réseaux sociaux.
Très actif sur les réseaux sociaux. Le militantisme de la France Insoumise, avec des bons côtés du militantisme et parfois quelques excès. Et la notion de violence, comme on sait que sur les réseaux sociaux, quelquefois, il y a quelques dérives, on va dire. C'est clair que cette culture de la bagarre, de la violence et de la virulence et de la dénonciation est extrêmement forte. Sans juger du tout du fond de l'affaire que je vois.
C'est un défi à relever pour la France insoumise, parce que souvenez-vous, il y a à peine deux ans, Jean-Luc Mélenchon arrivait à recueillir environ 20% des voix à la présidentielle au premier tour. Là, les sondages, alors on est encore à un mois et demi, tout peut changer.
Ça se rapproche quand même.
Mais c'est vrai que tout peut changer pour les européennes assez rapidement. Alors je vous dis pas que les tendances vont s'inverser, mais donc la France insoumise est crédité par les sondages de 7,5%. Point de suspension.
Alors, vous avez la main, Jeannick Halimi. La une demain du Parisien, aujourd'hui en France.
Notre-Dame, l'état d'urgence.
Vous voyez, alors la une, Arnaud Gonzague, de l'Obs, cette semaine.
Notre-Dame.
Avec vous, Arnaud Benedetti, rappelez-nous la une de la revue politique et parlementaire.
Les Gilets jaunes, un mouvement révolutionnaire. Nous
sommes au cœur de l'actualité. Véronique Relsoul, je rappelle, notre enquête Odoxa, Dentsu Consulting sur France Info et Le Figaro sur l'opinion après l'incendie de Notre-Dame. Bien évidemment, il est 20h58, c'est la fin de ces informés sur France Info. Merci une fois de plus pour votre fidélité et pour ma part, je vous dis à demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.